Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Djamila Ribeiro autour de son livre Le féminisme noir, chronique du Brésil, paru aux éditions Anacaona à la librairie Terra Nova.
Bonsoir à tout le monde. Encore une fois, merci beaucoup pour être venus avec tellement de gens et je suis contente. Bon, je voudrais d'abord présenter Paula Anacaona qui a fait ce travail des traductions du portugais pour les français. Du coup, juste pour me présenter, je m'appelle Raiz Inocencio, je fais un doctorat première année en philosophie. Mon sujet de thèse, c'est la décolonisation du savoir et la représentation féminine liée à la réception du mythe des naissances d'Aphrodite et la question esthétique coloniale, notamment les cas de la Vénus Hottentote. Du coup, il y a cette question. Moi, en tant que médiatrice, je pars d'une première question à Paula, qui c'est le travail de la traduction, comment ça s'est passé, et notamment la place de la parole noire, parce qu'en portugais, ça veut dire lugar de fala, lieu de parler. Et là, elle a changé pour la place de la parole. Du coup, je commence cette table-là en posant cette question à Paula sur la traduction du portugais pour les français. Pourquoi la place de la parole noire? Merci.
Ok, bonsoir à tous. Merci d'être là. Donc, c'est vrai que je vais m'exprimer là. Je vais parler rapidement et ensuite, tout à l'heure, je ferai l'interprétariat de Djamila. Donc ensuite, je m'effacerai complètement et je traduirai les mots de Djamila. Mais là, c'est moi qui parle et qui assume les mots. Donc c'est vrai qu'en portugais, lugar de fala, en fait, lugar, en portugais, ça peut être lieu, le lieu, la place, l'espace. Donc c'est vrai que j'ai tourné dans ma tête vraiment pendant plusieurs semaines le lieu de la parole, l'espace de la parole. Fala aussi, ça peut être parole, ça peut être parler. Donc le lieu du parler, enfin vraiment je tournais ça. Et puis le problème aussi c'est que déjà c'est un titre. Donc un titre, il faut que ce soit beau, il faut quand même que ça claque un petit peu. Et puis surtout comme Djamila a vraiment en fait repris ce concept, elle l'a conceptualisé et après elle l'utilise tout le temps, je ne pouvais pas faire des périphrases ou utiliser parfois espace, parfois lieu. Il fallait vraiment que je trouve un terme et que j'utilise toujours le même, histoire d'imposer ce concept. Et donc en fait, j'ai beaucoup hésité entre lieu et place surtout. Et finalement, j'ai choisi place parce qu'en fait, il y a cette histoire de place de la parole, c'est surtout la place sociale, comme vous le dira Djamila. Donc c'est surtout, voilà, je trouve une histoire de pouvoir. Et en fait, moi, là où j'ai surtout décidé mon choix, c'est qu'en fait, une phrase un peu courante, c'est « reste à ta place » ou « t'es pas à ta place ». Você não está no seu lugar. Et je me suis dit, ce genre de phrase, voilà, en portugais, on dit fica no seu lugar, et en français, on dirait reste à ta place. Donc je me suis dit, voilà, ça a à voir quand même avec la place, ces relations de pouvoir. Et en fait, c'est vrai que donc en portugais, c'était juste la place de la parole. Et j'ai demandé à Djamila, parce que j'ai eu la chance de la rencontrer en mars. Donc déjà, je lui ai posé des petites questions, sûrement un peu stupides, sur la traduction. Mais comme ça, ça m'a permis d'être sûre que j'avais bien compris. Parce qu'en traduction, on peut toujours comprendre des fois des choses de façon un peu erronée. Et je lui ai demandé, est-ce qu'on pourrait rajouter parole noire ? Parce que je trouvais que la place de la parole, toute simple, en français, c'était pas très clair. Alors qu'il me semble qu'en rajoutant le nègre, au lugar da fala nègre, on savait tout de suite de quoi on parlait. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit, ah, mais non, la place de la parole, ça peut aussi être les Blancs, parce que les Blancs aussi ont une place de la parole. Mais après, je me suis dit, Djamila, dans son livre, elle parle de la place de la parole noire. Elle parle beaucoup moins de la place des autres paroles. Donc, ça avait du sens de rajouter ce petit adjectif au titre. Donc, voilà mes dilemmes de traduction. Des fois, je me réveille à 2h du matin à penser à ça.
Voilà. Merci beaucoup. Ce sont des types de questions que, quand on lit un bouquin, on s'y demande et on pose à l'imagination. Et là, on a des rares opportunités de poser... Et juste pour dire, et du coup, là, je vais poser les questions en portugais et ensuite je vais traduire. Pour ceux qui sont venus, comme des amis que je sais qui sont ici, qui ne comprennent pas exactement les français. Et la première question, je pose en portugais et puis je traduis. Djamil, quando eu li os dois livros, na verdade eu devorei, porque é uma leitura muito gostosa de ser feito, mesmo assim, é o primeiro elogio que eu vou fazer. E um ponto interessante entre os dois livros é uma ruptura com a hierarquia de opressão, muitas vezes utilizada para silenciar a mulher negra, inclusive no meio militante, né? Ah, você está rachando a esquerda. Nesse sentido, você poderia falar um pouco mais sobre o capítulo O Feminismo Negro como Marco Civilizatório? Exactement pour donner une introduction aux deux livres. La première question. Au début, je l'ai dit que j'ai dévoré les deux bouquins parce qu'elle l'a fait d'une façon fluide. J'ai dévoré les deux bouquins. C'est vraiment. Elle part des sujets difficiles et c'est vraiment légère. Et un point intéressant entre les deux livres, c'est la rupture avec la hiérarchie de l'oppression. Parce que plusieurs fois, c'est utilisé pour silencier la femme noire, inclus au milieu militant, soi-disant ça va craquer la gauche si la femme noire demande une place. Dans ce sens-là, Djamil, vous pouvez parler un peu plus sur les chapitres, les féminismes noirs comme... Marco civilisatório,
un cadre civilisateur.
Un cadre civilisatoire. Merci.
Primeiro, boa noite a todas as pessoas presentes. Quero agradecer aqui à livraria pelo espaço e a presença de todos vocês.
Donc bonsoir à tous, merci d'être venu ce soir. Donc je remercie vraiment la librairie qui nous a laissé cet espace.
Gostei bastante da pergunta, porque essa é uma crítica, né, de que mulheres negras racham o movimento, é uma crítica que a gente escuta muito no Brasil.
Donc j'ai bien aimé votre question parce que c'est vrai que le fait que les femmes noires diviseraient le mouvement, c'est une question que on nous fait beaucoup.
E essa é uma crítica que, na verdade, é parte de pessoas que não entenderam como que as hierarquias de opressões estão postas.
E, en fait, c'est une critique que ces gens font, mais ce sont des gens qui n'ont pas compris comment les hiérarchies d'oppression se mettent en place.
Porque a sociedade ela já é dividida, né? As opressões de raça, classe e gênero dividem a sociedade.
Parce que la société, en fait, elle est déjà divisée. La race, la classe, le genre divisent déjà la société.
No Brasil, colocando a mulher negra na base, né, na última colocação.
E sachant que la femme noire au Brésil, elle est à la base de cette pyramide, à la dernière place.
Quando a gente percebe a importância de nomear as opressões?
Et quand on voit l'importance de nommer les oppressions?
É justamente para combater uma divisão que já está posta.
C'est justement en fait pour combattre une division qui existe déjà.
Então, as feministas negras historicamente falam da importância de nomear as opressões.
Et les féministes noires, historiquement, elles ont toujours insisté sur l'importance de nommer les oppressions.
Porque se a gente não nomeia, né, os problemas, como é que a gente vai pensar a solução para algo que a gente sequer nomeou?
Parce que si on ne nomme pas quelque chose, comment penser à des solutions à quelque chose qu'on n'a même pas nommé?
E ao falar isso, a gente está falando de políticas públicas.
Et donc, comment penser à des politiques publiques?
E justamente para poder ter mostrar, né, em dados, como que a realidade, como que se dá a realidade brasileira.
E donc c'est fait aussi pour montrer grâce à des données quelle est la réalité brésilienne.
Então quando as pessoas dizem que a gente tem que governar, né, ou falar para todos?
Et donc quand les gens disent qu'il faut gouverner ou qu'il faut parler pour tous?
Eu pergunto quem são esses todos, né? Todos não é uma massa abstrata.
Moi je demande c'est qui c'est tous. Tous, ce n'est pas une masse abstraite.
As pessoas são marcadas por identidades.
Les gens sont marqués par des identités.
E a depender das identidades que essas pessoas combinam, entrecruzam, elas vão ficar em lugares maiores de vulnerabilidade.
Et en fonction de ces identités que ces gens ont, que ces gens combinent, ils vont se trouver dans des situations de plus ou moins de vulnérabilité.
Então é equivocada, né, a crítica que dizem que a gente é um movimento meramente identitário.
Donc je crois que les gens qui disent que le féminisme noir est un mouvement seulement identitaire se trompent.
Porque os homens brancos esquecem que masculinidade e branquitude também são identidades.
Parce que les hommes blancs oublient que la masculinité et la blanchité sont aussi des identités.
Então eles colocam num lugar de universal e marcam todos aqueles que não são a norma.
Parce que eux se mettent à la place de l'universal et donc ils marquent tous ceux qui ne sont pas la norme.
Então ao nomear essas identidades e perceber como o poder reifica essas identidades?
Et donc en fait en nommant ces identités et en montrant surtout comment le pouvoir chosifie ces identités.
As feministas negras estão pensando um projeto.
Les féministes noires, en faisant cela, elles pensent un projet.
Em que não existe a hierarquia de opressão.
Un projet où il n'existe pas de hierarchie d'oppression.
E que combate essa invisibilidade da realidade de grupos marginalizados.
Et donc, on cherche à combattre l'invisibilité des groupes marginalisés.
Então, o novo marco, né, civilizatório, que a Sueli Carneiro, que é uma feminista negra no Brasil, fala.
Et donc, ce nouveau cadre civilisateur dont vous parliez, qui a d'abord été conceptualisé par Sueli Carneiro, une féministe noire brésilienne.
É justamente deflagrar o quanto que a gente vive uma sociedade, a gente não vive uma civilização, a gente vive uma barbárie quando as nossas vidas são marcadas por violência.
En fait, ce qu'elle veut montrer, c'est que on ne vit pas dans une civilisation, on vit dans une barbarie où nos vies sont marquées par la violence.
Então, para dar alguns dados, né, no Brasil, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado.
Donc pour vous donner quelques chiffres, toutes les 23 minutes au Brésil, un jeune noir est assassiné.
Das mulheres que morrem de mortalidade materna, 62% são negras.
Parmi les femmes qui meurent de mortalité maternelle, 62% sont des femmes noires.
Povos indígenas, né? A gente tem um genocídio de povos indígenas no Brasil em curso.
Les peuples autochtones, ils souffrent un génocide au Brésil.
Se a gente não traz à tona essas realidades, como que a gente vai dizer que a gente está pensando um projeto de nação?
Et donc si on ne met pas en lumière ces réalités, comment est-ce qu'on peut penser à un projet de nation?
Então, o grande problema é que quem sempre esteve no poder enxerga que acha que todos partem desse mesmo lugar de humanidade.
Et en fait, le problème c'est que ceux qui ont toujours été au pouvoir, ils pensent que tout le monde part du même lieu, de la même place d'humanité.
Merci beaucoup. Para continuar, quando eu li, eu fiquei muito feliz de ver Grada Quilomba. Uhum. Eu tive a oportunidade de estar na presença na galeria quando ela foi agora em Paris. E a segunda pergunta é sobre o lugar de fala. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a máscara da Anastácia e quando a Grada Quilomba fala o outro do outro. Uhum. Que a maneira como você coloca abriu portas na minha cabeça, eu achei muito interessante. E nesse sentido, como o conceito lugar de fala rompe o que a Conceição Evaristo fala dos furinhos, né, da máscara que
estilhaça,
que estilhaça. Como o conceito de lugar de fala ressignifica, ao seu ver, identidades antes constituídas como subalternas, né, que o J. Mombassa que você cita, a Sueli Carneiro, a Spivak. Je vais traduire. La deuxième question, c'était vraiment, j'étais vraiment contente de voir qu'elle citait Grada Quilomba, qui c'est une artiste, psychanalyste, performeuse qui habite à Berlin et d'origine du Portugal. Elle est portugaise d'origine Angola et Saint-Thomas-et-Principe. Et je voudrais qu'elle parle un peu sur la masque d'Anastasia. Et aussi comme grade qui l'on me parle de la femme noire, elle est l'autre de l'autre. Comme Simone de Beauvoir a dit, la femme est l'autre. Et Grada Quilombe, elle parle qu'elle est l'autre de l'autre. Et dans ce sens-là, comment le concept de la place des paroles noires ressignifie les identités, selon Djamil Ribeiro, qui sont avant constituées comme des subalternes. Et subalternité, ça veut dire les auteurs qu'elle cite aussi, Spivak, Jota Mombas e Sueli Carneiro. Eu dei só uma contextualizada. Uhum. Grada Quilombo, a origem portuguesa de Angola. Não, claro. Obrigada.
É, a Grada Quilombo, no livro dela, é Plantation Memories.
Donc, Grada Quilombo, dans son livre qui s'appelle Mémoire de la Plantation,
ela diz que a mulher negra é o outro do outro por ser essa dupla antítese de branquitude e masculinidade.
En fait, elle dit que la femme noire est l'autre de l'autre parce qu'en fait, elle est une double antithèse de la masculinité et de la blanchité.
Então, é Simone de Beauvoir, que é uma autora que eu leio bastante.
Et Simone de Beauvoir, qui est une auteure que je lis beaucoup.
É, no segundo sexo tinha, né, conceituado essa categoria do outro.
Dans le deuxième sexe, elle avait conceptualisé cette catégorie de l'autre.
Que a mulher era o outro porque ela não era pensada em si, mas sempre em oposição ao homem.
En fait, elle disait donc que la femme, elle était l'autre parce qu'elle n'était jamais pensée en elle-même, elle était toujours pensée en opposition par rapport à l'homme.
Então, eu penso que a Grada Quilombo, ela acaba sofisticando essa análise porque ela contempla a realidade das mulheres negras.
Et moi, je pense que Grada Quilombo, en fait, sophistique un petit peu cette analyse de Simone de Beauvoir en l'appliquant pour les femmes noires.
Então, quando a gente pensa lugar de fala...
Et donc, quand on pense à la place de la parole...
Acho que o primeiro ponto é perceber que a gente está falando de um lugar social, né?
Je crois que le premier point, c'est de voir qu'on parle de place sociale.
Quando eu lancei o livro em 2017 no Brasil, né, gerou muita polêmica.
Et quand j'ai lancé mon livre au Brésil en 2017, il a généré une intense polémique.
Porque as pessoas estavam entendendo como interdito.
Parce que les gens en fait le pensaient cela comme interdit.
Como se fosse uma interdição ao debate, como se homens brancos não pudessem mais falar.
Parce qu'en fait les gens ont vu ça comme un interdit au débat, comme si les hommes blancs ne pouvaient plus parler.
E era justamente ao contrário, era desvelar os processos.
Alors qu'en fait, c'était justement le contraire. Le but, c'était de révéler les processus
qui faz com que exista um regime de autorização discursiva.
Donc ces processus qui font qu'il existe des régimes d'autorisation discursive
qui só permite que um grupo tenha uma impõe a sua voz sobre outros grupos.
Et ce régime fait qu'il y a un groupe qui impose sa voix aux autres groupes.
Então, quando a gente pensa qual é o lugar social, né, que as mulheres negras ocupam no Brasil.
Et donc quand on pense à la place, quelle est la place sociale que les femmes noires occupent au Brésil?
Claro que eu não estou negando as subjetividades nem as experiências individuais.
Donc évidemment, je ne nie pas la subjectivité et les expériences individuelles.
Mas não tem como a gente pensar um conceito que dê conta de tantas experiências individuais, porque nós somos diferentes umas das outras.
Donc c'est vrai que c'est difficile de penser à un concept qui puisse rendre compte de toutes ces individualités parce qu'on est toutes différentes.
Então, no lugar de fala, a gente está fazendo um debate estrutural, fundamentalmente.
Mais donc c'est pour ça qu'avec le concept de place de la parole, nous faisons un débat essentiellement structurel.
Quais são as experiências que as mulheres negras têm em comum?
Quelles sont les expériences que les femmes noires ont en commun?
Por pertencerem a esse grupo social.
Par le fait qu'elles appartiennent à ce groupe social.
Então, já citei alguns dados, né? Um alto índice de mortalidade materna, violência obstétrica.
Donc je vous ai déjà cité quelques chiffres, donc le fort indice de mortalité obstétrique, de mortalité maternelle.
Se eu for pensar o grupo social homens negros no Brasil.
Par exemple, si je pense au groupe social des hommes noirs au Brésil.
Posso ter a taxa de letalidade de jovens negros.
Et ben je veux on peut voir un fort taux de létalité des jeunes noirs.
Alto número de encarceramento.
Un taux élevé d'incarcération.
É, falta de oportunidades educacionais.
Un manque d'opportunités éducatives.
Então, no lugar de fala, a gente está desvelando quais são esses processos que essas opressões estruturais.
Et donc avec la place de la parole, en fait, on révèle quels sont les processus de ces oppressions structurelles.
Que faz com que os grupos tenham experiências em comum por conta dessas opressões.
Et qui fait que ces groupes ont des expériences en commun à cause de ces oppressions.
Então, se mulheres negras estão num lugar de vulnerabilidade.
Et donc si les femmes noires sont dans une place de vulnérabilité,
né, em sua maioria,
en majorité,
isso significa que elas não vão acessar espaços de poder.
Ça veut dire qu'elles auront du mal à accéder aux espaces de pouvoir.
O fato de elas não acessarem espaços de poder,
et le fait qu'elles ne puissent pas avoir accès aux espaces de pouvoir,
faz com que as suas produções, os seus discursos também não acessem esses espaços.
Ça fait que leur production, leur discours n'accèdent pas non plus à ces espaces.
Então, o lugar de fala é desvelar essa hierarquia violenta.
Et donc la place de la parole révèle cette hiérarchie violente,
que como diz Derrida, que decide quem pode existir e quem não pode existir, não é só no sentido de falar, no sentido de dizer palavras.
E donc en fait qui décide de qui peut exister ou ne pas exister, sachant que voilà, la parole ce n'est pas seulement le sens des mots.
Ao mesmo tempo também desvela, faz com que grupos que estejam localizados num lugar de poder,
et en même temps ça fait que certains les groupes qui sont situés dans les espaces de pouvoir
também percebam que seus privilégios não são naturais nem providencialmente fixados.
E donc ces groupes en fait, il faut qu'ils perçoivent que leurs privilèges ne sont pas naturels et n'ont pas été naturellement acquis.
Foram construídos à base da opressão de outros grupos.
Ils ont été construits sur la base de l'oppression à d'autres groupes.
Então acho que contribui porque respondendo à pergunta diretamente.
Donc pour répondre à la question directement.
Que também força essa branquitude a se enxergar.
Uhum. Força a branquitude
a se enxergar.
Donc en fait, je crois que ce concept force la blanchité à se regarder.
Que como diz novamente retomando a Grada Quilomba.
Parce que pour reprendre Grada Quilomba.
Ela diz a branquitude ela é presente.
En fait, elle dit la blanchité est présente
nos espaços,
dans les espaces,
mas ela é ausente de reflexão de por que só ela ocupa esses espaços. Mm.
Mais néanmoins, elle est absente de réflexion sur le pourquoi est-ce qu'elle occupe ces espaces.
A negritude, ela é ausente desses espaços.
Alors que la négritude, elle est absente de ces espaces.
Mas ela é presente no sentido de como que esses grupos são tratados. Que são marcados por violências, enfim, institucionais e estruturais.
Mais néanmoins, elle est présente par la violence qui marque ces groupes de façon institutionnelle.
Então, também traz essa reflexão do quanto que é importante que as pessoas brancas discutam branquitude como metáfora do poder.
Et donc, je crois que le concept aussi montre à quel point il est important que la blanchité réfléchisse à la blanchité en tant que métaphore du pouvoir.
Merci. E a última questão, na verdade, tem a ver com o fato de que eu fui saber o que era o racismo na França, porque no Brasil eu passo por branca, e eu sou do Ceará, eu venho de uma família pobre que é emergente e que é extremamente estruturada num racismo, que qualquer coisa que você faça diferente, você é considerada ou doida, você é inferiorizada pela... Ou seja, você é considerada ou doidinha. No Ceará, a gente fala, você é doidinha. Quando você quebra com embranquecimento. Tem vários tipos de insulto que, na época, eu não sabia o que era. E, finalmente, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu comecei a descobrir que, na verdade, eu não era doida. O contrário. E aqui na França, é um racismo ligado à questão árabe, né? Eles me tiram para árabe e pensam... E aí, desde olhares, assim, né? E essa inferiorização. E aí eu queria te perguntar, que eu gostei muito de ver no teu texto o direito à existência e como que você, por exemplo, qual é o desafio de não esvaziar conceitos tão fortes como empoderamento, como direito à existência, como subjetividade negra, negritude, que não seja esvaziado, né? Da maneira como a gente descobre no dia a dia. E foi assim que eu descobri, vindo para a França, que na verdade eu não era doidinha, eu era simplesmente da maneira que eu sou. E romper com esse circuito de inferiorização, né? Que bem ou mal é interseccional, no meu caso de classe, mas também no caso da questão negra. Je parlais à Djamila, et là c'est la dernière question. Parce que moi je viens du Nord-Est. D'une région les plus pauvres du Brésil. Et moi, j'ai découvert qu'est-ce que c'est le racisme en France. Parce qu'au Brésil, je passe pour une fille blanche. Donc, c'était en France parce que les gens pensent que je suis arabe. Et du coup, j'ai vécu dans un seul coup les racismes de couleur, les racismes de classe et les racismes de religion. Et bref, pour dire, je demandais à Djamil comment on peut penser les droits d'existence sans esvaziar, sans vider ces concepts tellement forts comme empowerment, qui en français s'est traduit par autonomie, mais
autonomisation.
Autonomisation, mais empowerment, ça veut dire devenir plus puissante. Et les droits d'existence, c'est quelque chose qu'on cherche. Et j'ai dit à Djamil qui personnellement, au Ceará, région que je viens, les gens me disaient, quand je n'ai pas reproduit la performance des bronchités, les gens disaient, ah, mais elle est faux folle. Ah, mais elle... Et moi, je pensais, mais je ne reproduis pas ces modèles de bronchités. Et pourquoi je dois faire cette performance-là? Et du coup, ma question, c'est surtout comment ne pas vider ces processus de droit d'existence et d'empoderament et de décolonisation aussi, que c'est très important pour nous. Le Brésil n'a jamais vécu un processus de décolonisation. Jamais. Et moi, en tant que nordestine, moi, j'aimerais que ça se passe aussi par rapport à toute l'histoire du Brésil. Et merci beaucoup. Et après, on ouvre au public.
É importante perceber como conceitos importantes estão sendo esvaziados.
Donc effectivement, c'est important de voir comment, à quel point des concepts importants sont vidés de leur substance.
É uma feminista negra brasileira chamada Leila Gonzalez.
Donc il y a une féministe noire brésilienne qui s'appelle Leila Gonzalez.
Que dizia que a gente tem que tomar cuidado com a cooptação e o esvaziamento.
Et elle disait justement qu'il faut faire très attention à la cooptation et au vidage.
Porque são conceitos que são que são importantes de transformação social.
Parce que ce sont des concepts importants de transformation sociale.
E que são cooptados e esvaziados numa lógica capitalista.
Et ils sont cooptés, vidés dans une logique capitaliste.
Que faz, por exemplo, com que as pessoas pensem que empoderamento é algo liberal.
Et qui fait que beaucoup de gens pensent que l'autonomisation, l'empowerment, c'est quelque chose de libéral.
Ou somente ter os mesmos direitos dos homens brancos.
Ou que ce serait seulement avoir les mêmes droits que les hommes blancs.
Mas continuar reproduzindo a opressão contra os grupos.
Mais où ça on continuerait à reproduire les oppressions contre d'autres groupes.
Então, empoderamento é um conceito que foi pensado por um grande pensador brasileiro chamado Paulo Freire.
Et donc l'autonomisation, c'est un concept qui a été pensé par un grand penseur brésilien qui s'appelle Paulo Freire.
E feministas negras estadunidenses como Bell Hooks, por exemplo.
Et il y a aussi des féministes des États-Unis comme Bell Hooks qui l'ont étudié.
Partem de Paulo Freire para pensar esse conceito que é uma ferramenta de transformação social.
Et donc ils partent de ce concept étudié par Paulo Freire, considéré comme un outil de transformation sociale.
As feministas indianas como Blachvala, Gita Sen também trabalham bastante com o conceito de empoderamento.
E les féministes indiennes aussi travaillent beaucoup avec ce concept d'autonomisation.
Então é muito importante a gente retomar a potência, né, e a importância desses conceitos.
Et donc je crois que c'est très important qu'on retrouve la puissance et l'importance de ces concepts.
Então, esvaziamento de conceitos é algo que vinha me irritando muito há algum tempo.
Et donc cette espèce de vidage de ces concepts, c'est quelque chose qui m'irritait depuis un petit bout de temps.
E justamente por isso que eu pensei a coleção Femininos Plurais no Brasil.
Et c'est justement pour ça que j'ai pensé à monter une collection de livres au Brésil qu'on a appelé Féminisme Pluriel.
Nós já publicamos 6 títulos.
Nous avons déjà publié 6 titres dans cette collection.
O primeiro é o Lugar de Fala.
Donc le premier c'est La Place de la Parole.
Que era extremamente esvaziado e deslegitimado no Brasil, esse conceito.
Qui était un concept qui était justement complètement vidé de son sens.
O segundo foi Encarceramento em Massa.
Le deuxième titre de cette collection ça a été sur l'incarcération de masse.
Justamente para a gente entender a importância de pautar uma outra segurança pública no Brasil.
E justamente, en fait, pour penser à une autre politique de sécurité publique au Brésil.
Num país que tem como hegemônico essa visão de punição e criminalização da pobreza.
Dans un pays, en fait, où la vision hégémonique qui prédomine, c'est la criminalisation et la punition de la pauvreté.
E mesmo nos meios feministas.
Et même dans les milieux féministes.
Muitas feministas ainda pautando muito na questão só da punição e na questão legal.
Beaucoup de féministes en fait ne parient que sur la question de la punition et la question légale.
Não entendendo que mulheres negras, por exemplo, no Brasil, não têm acesso à justiça.
Elles ne comprennent pas en fait que beaucoup de femmes noires au Brésil, elles n'ont pas accès à la justice.
E ao mesmo tempo a gente sabe que há um conceito de justiça burguesa que não atende aos anseios dessas mulheres.
E on sait très bien qu'en fait c'est un concept de justice bourgeoise qui n'atteint pas ces segments de femmes.
Então, um exemplo, quando uma mulher negra sofria violência doméstica.
Par exemple, quand une femme noire souffre une situation de violence domestique.
Era muito comum ouvir feministas dizendo, ah, mas é só você denunciar.
Et c'était très commun de voir des féministes qui lui disaient, non, mais t'as juste à porter plainte.
Esquecendo que muitas mulheres, a maioria das mulheres negras moram em periferias no Brasil.
Et donc ces femmes-là, elles oublient que beaucoup de femmes noires habitent dans les périphéries du Brésil.
Em que elas não podem chamar a polícia, senão elas são penalizadas muitas vezes pela a questão da criminalização local.
Parce que très souvent elles ne peuvent pas appeler la police parce qu'elles habitent dans des environnements où il y a des narcotrafiquants à côté.
Também esquecendo-se da relação de desconfiança que essas mulheres têm com a polícia.
Et elles oublient aussi la relation de méfiance que ces femmes ont à l'égard de la police.
Porque é a mesma polícia que assassina os seus filhos.
Parce que c'est cette même police qui assassine leurs fils.
Então, Encarceramento em Massa foi escrito pela Juliana Borges.
Et donc ce titre, L'incarcération de masse, il a été écrit par Juliana Borges.
Que é uma feminista negra brasileira.
Une féministe noire brésilienne.
Pensando a partir de uma perspectiva feminista negra.
Où elle a pensé à partir d'une perspective féministe noire.
É para além dessa visão de punição num país que encarcera em massa homens negros.
Pour aller au-delà de cette vision dans un pays qui incarcère en masse surtout les hommes noirs.
O terceiro título foi justamente Empoderamento.
Et ensuite, le troisième titre de notre collection, il s'appelle justement L'autonomisation.
Foi escrito pela Joyce Bertsch, que é uma outra feminista negra.
Il a été écrit par Joyce Bertsch, qui est une autre féministe noire.
Em que ela traz as referências tanto de feministas negras brasileiras, indianas.
Et donc, dans ce livre, elle fait référence à des féministes noires brésiliennes, mais aussi indiennes.
Também latinas.
D'América Latina.
Para pautar esse conceito, para, na verdade, restituir o significado político desse conceito.
E, en fait, elle cherche à sauvegarder la signification politique de ce concept.
O quarto livro foi né, Racismo Estrutural.
Donc, ensuite, on a sorti un quatrième livre qui s'appelle Le Racisme Structurel.
Foi escrito por Silvia Almeida.
Écrit par Silvia Almeida.
Que é justamente pensar como que o racismo estrutura todas as relações sociais no Brasil.
Et en fait, dans ce livre, on montre comment le racisme structure toutes les relations sociales.
E trazer uma discussão mais aprofundada desse problema.
Et donc, il cherche à vraiment approfondir la discussion sur ce problème.
No país que foi fundado sob o mito da democracia racial.
Dans un pays qui s'est fondé sur le mythe de la démocratie raciale.
Quinto livro, Interseccionalidade.
Ensuite, le cinquième livre est sur l'intersectionnalité.
Um outro conceito que ela vinha sendo esvaziado.
Un autre concept aussi qui a été vidé de sens.
E a importância, e pensar a interseccionalidade como uma ferramenta política também de transformação.
Et on cherche à penser l'intersectionnalité également comme un outil de transformation.
Ao passo que traz à tona a realidade de grupos que foram historicamente invisibilizados.
Sachant aussi que ça permet de mettre en lumière la réalité de groupes qui historiquement étaient rendus invisibles.
O sexto título dialoga muito com o que você trouxe da doidinha, que é racismo recreativo.
Et donc le sixième titre, il fait un petit peu référence à ce que vous disiez tout à l'heure sur la fofolle. Il s'appelle qu'est-ce que le racisme récréatif?
Foi escrito por intelectual brasileiro chamado Adilson Moreira.
Il a été écrit par un intellectuel brésilien qui s'appelle Adilson Moreira.
Que mostra como são criados estereótipos em relação a minorias raciais.
Et en fait, ce livre montre comment sont créés des stéréotypes sur les minorités raciales.
E como que esses estereótipos são naturalizados.
Et comment ces stéréotypes sont ensuite naturalisés.
Aceitos na sociedade.
Comment ils sont acceptés dans la société.
E como esses grupos são sempre os grupos alvos do escárnio e do riso.
Et comment ces groupes en fait sont toujours après la cible des moqueries et des rires.
Mostrar como que o humor, né, não está isento dos valores da sociedade.
En fait, on montre comment l'humour n'est jamais absent des valeurs de la société.
Sobretudo num país como o Brasil, em que quando a gente reclama, as pessoas falam, ah, mas é só uma brincadeira.
Et surtout dans un pays comme le Brésil, où quand on se plaint, les gens vous disent, non mais attends, je plaisantais.
Então, a gente... E essa coleção é importante dizer, né, que é uma coleção independente.
Et donc, c'est important de souligner aussi que cette collection de livres qu'on a fait est une collection indépendante.
São livres didáticos e acessíveis no preço.
Ce sont des livres didactiques et qu'on a voulu accessibles dans le prix.
E que em dois anos tem feito bastante sucesso no Brasil.
Et en deux ans, on a eu un beau succès au Brésil.
Num momento em que o mercado editorial está em crise.
Dans un moment où le marché éditorial brésilien est en crise.
A gente vende livros, leva 3 mil pessoas num lançamento de livro.
On vend des livres avec des lancements où il y a 3000 personnes qui sont présentes.
Acho que mostra que, de fato, que está em crise talvez seja esse modelo, esse mesmo modelo de sujeito que fala, que escreve, que produz. Talvez isso que esteja em crise.
E, donc, en fait, ce que ça montre, c'est que peut-être que ce qui était en crise, c'est ce modèle de récit toujours le même, ou c'est toujours le même sujet qui parle et qui écrit.
Nos últimos 10 anos no Brasil, só foram publicadas... Dos livros publicados, só 10% foram escritos por pessoas negras.
Donc, par exemple, au cours de ces 10 dernières années au Brésil, seulement 10% des livres publiés ont été écrits par des auteurs noirs.
E é por isso que na nossa coleção só escrevem pessoas negras e indígenas.
Et c'est pour ça que dans notre collection n'écrivent que des auteurs noirs ou autochtones.
Porque a gente percebeu a importância de disputar essas narrativas num país que está vivendo um ataque às ciências humanas e ao pensamento crítico.
Parce que on a trouvé que c'était important en fait que dans un pays où qui souffre des attaques aux droits humains, que ces personnes-là puissent s'exprimer et avoir accès à ces espaces.
Et juste là, on n'a pas oublié la situation actuelle brésilienne. Mais comme Grada Quilomba parle, il faut donner l'énergie correcte. C'est pour ça que là, on se concentre sur ce qu'on a envie. Eu citei Grada Quilomba de novo, dizendo que a gente tem que se concentrar sobre a energia certa. Uhum. Sabe? Uhum. Depois, enfim.
Né? Tá certíssimo.
Quelqu'un veut poser des questions? On ouvre au public? É bom que pode.
Ai, vamos Brasil, vamos Brasil.
Tem que fazer d'abord em português e depois de traduzir. A pergunta que eu quero fazer é mais ou menos a mesma que ela fez no começo, que é por que o título em francês ficou Chronique sur le féminisme noir e não Qui a peur du féminisme noir, como é o título em português? Donc la question que je pose, c'est parce que le titre du livre en portugais, c'est Qui a peur du féminisme noir? Et je pose la question de pourquoi il a été traduit comme Chronique sur le féminisme noir et pas tel qu'il était.
Bon. Alors, bon, les titres, comme toujours, c'est très important. En fait, j'ai trouvé que en France, déjà, on a quand même beaucoup de mal avec le mot noir. La preuve, c'est qu'on dit « Ah, je connais un black », au lieu de dire « Je connais un noir ». Donc déjà, le mot « noir » fait un petit peu peur. Et je sais qu'en France, ce thème de féminisme noir est un peu polémique. Au Brésil aussi, mais en France particulièrement, dans un pays quand même qui a créé l'universalité, etc. Et je trouvais que, en fait, ce titre « Qui a peur du féminisme noir ?», c'était déjà donner un argument aux détracteurs qui ont déjà peur du féminisme noir. Donc je trouvais que c'était déjà leur donner, oui, vous pouvez, enfin, je leur disais d'avoir peur dans le titre, alors que pour moi, il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Donc je préférais enlever ce mot peur. Et donc, comme ce sont des chroniques, voilà, chronique sur le féminisme noir. Mais je trouvais que mettre ce mot peur, ça allait faire peur aux gens, alors que je trouvais qu'il n'y avait pas de raison.
Robert.
Queria te agradecer, Jamila, por estar aqui. Você me inspira. Inspira a eu continuar... Ah, eu vou falar em português e
depois você.
Em francês. Você me inspira. Eu aqui estou desenvolvendo um trabalho onde eu coloco jovens europeus, jovens negros europeus, para falar sobre as narrativas. A série se chama Diásporas. E para mim foi muito importante eu fazer esse projeto, porque hoje em dia é muito difícil falar sobre questões raciais na França. Porque existe um universalismo que força as pessoas a não se identificarem como negras. E você falou sobre, você estava no início, você falou sobre a questão da língua, que é muito importante. E eu fiquei pensando no livro de Fanon, Frantz Fanon, Pour Noir Masque Blanc, onde ele começa justamente a falar que a língua faz parte, é um instrumento de dominação. E eu fico pensando justamente como é que você vê, como é que você analisa hoje em dia um mercado que seja cultural ou que seja mais literário, nessa lógica de apagar artistas e escritores negros e sempre dar o protagonismo a escritores e artistas brancos. Alors, je disais en fait que aujourd'hui j'ai un projet qui s'appelle Preto Novo, justement, qui parle des jeunes en Europe. Donc, en fait, ce sont des narratives où ces jeunes, ils parlent en fait de mouvements, en fait, du pays de leur origine et aujourd'hui de leur vie en France ou ailleurs. D'ailleurs, il y a une personne qui a fait la websérie aussi. Donc, en fait, ma question, c'est comment Djamila, elle analyse, en fait, aujourd'hui, le manque de représentativité. Et j'ai parlé justement de ce rapport avec la langue. Donc, j'ai cité Frantz Fanon en Peau noire, masque blanc, pour dire en fait que la langue est aussi un instrument de domination. Voilà.
Tem uma importante intelectual brasileira chamada Cida Bento.
Donc, il y a une intellectuelle brésilienne importante qui s'appelle Cida Bento.
Que na sua tese de doutorado, ela desenvolveu um conceito muito importante para entender o Brasil.
E dans sa thèse de doutorat, ela desenvolveu um conceito très important pour comprendre le Brésil.
Chamado Pacto Narcísico da Branquitude.
Que s'appelle le Pacte Narcissique de la Blanchité.
Que significa dizer que o quanto que é um grupo que se apoia e se só vem como iguais pessoas como eles, usando Narciso.
E donc c'est en fait ça cherche à montrer comment en fait la blanchité est un groupe qui s'appuie et surtout comme le mythe de Narcisse qui ne fréquente que les gens qui leur ressemblent.
E esse pacto faz com que no Brasil, um país de maioria negra,
et à cause de ce pacte, c'est ça qui fait que le Brésil, un pays à majorité noire,
faz com que produções negras, com que intelectuais negros tenham sido invisibilizados ao longo da história.
Et bien, à cause de ce pacte, les intellectuels noirs, les productions noires, ont été rendus invisibles pendant l'histoire.
Então, esse pacto, eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo há duas semanas atrás.
Donc, d'ailleurs, ce pacte, j'ai écrit un article il y a deux semaines dans la Folha de São Paulo à ce sujet.
Chamado Pacto Branco e a Maldição da Mediocridade.
Ça s'appelle le pacte blanc et la malédiction de la médiocrité.
Claro que as pessoas ficaram bravas.
Évidemment, les gens ont été furieux.
Mas era justamente mostrar que não é possível que somente um grupo social produza talentos e tenha qualidade.
Et en fait, ce qu'on veut dire, c'est que ce n'est pas possible qu'un seul groupe social produise des talents et ait des qualités.
E é justamente por isso que o Brasil tem desempenhos pífios em várias áreas. Desde o saber, do esporte, em várias áreas.
O que é pif?
Pífio, baixo. Pouco, baixo.
Ah, et donc c'est peut-être
médiocre.
Et c'est peut-être pour ça que le Brésil, c'est au cours du temps, en fait, a eu peu de personnalités de renom dans les domaines du sport ou d'autres domaines.
Porque não é realístico que somente um grupo tenha condições de ser o grupo que está à frente dessas produções.
Parce que c'est pas réaliste de croire que un seul groupe peut être sur le front de ces productions.
Então, enquanto a gente o país não entender a importância de visibilizar e valorizar e legitimar outros saberes, outras possibilidades de existência.
Et donc, tant que le Brésil ne verra pas l'importance de rendre visible et de valoriser l'existence de ces autres savoirs,
vai ser um país que todos os dias vai assassinar seus talentos.
Ça restera un pays qui tous les jours assassine ses talents.
Eu não consigo parar de pensar quantos talentos são assassinados todos os dias nas periferias do Brasil.
Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser au nombre de talents qui sont assassinés tous les jours dans les périphéries du Brésil.
Ao mesmo tempo, como a gente não pode esperar que essa consciência venha...
Et en même temps, comme on ne peut pas attendre non plus que cette conscience arrive...
É importante que a gente traga essas produções à visibilidade.
C'est important que nous-mêmes, on apporte ces productions pour qu'elles soient visibles.
E as pessoas brancas que, de fato, se dizem antirracistas...
Et que les gens blancs qui se disent, dans les faits, antirracistes...
Comecem a questionar o seu entorno, comecem a questionar as suas referências bibliográficas...
Que ces gens-là, ils commencent à questionner leur entourage, qu'ils commencent à questionner leurs références bibliographiques...
Porque um dos grandes males do racismo é a naturalização dos lugares.
Parce que un des grands maux du racisme, c'est la naturalisation des places.
De pessoas brancas conviverem só entre elas e não se questionarem por que que só estão convivendo entre elas.
Parce que donc les personnes blanches, elles cohabitent entre elles et elles ne se questionnent pas pourquoi elles ne sont qu'entre elles.
E quando eu digo isso da importância de se ler autores negros, de valorizar saberes indígenas, por exemplo.
Et donc quand je dis cela, quand j'insiste sur l'importance de lire des auteurs noirs, de valoriser les savoirs autochtones.
Não é no sentido essencialista do termo, né, de que só porque é negro ou porque é mulher.
Je dis pas ça dans un sens essentialiste du terme, c'est-à-dire faire cela parce que il est noir, parce que c'est une femme.
É no sentido de questionar, é realístico que somente o grupo homem branco heterossexual produza saberes?
C'est juste dans le sens de se questionner, est-ce que c'est réaliste que le groupe seulement d'hommes blancs hétérosexuels produise ces savoirs?
Então, é importante que a gente, né, traga essas referências. Nos meus livros, eu trago referências de mulheres desde o século XVII.
Et donc, c'est très important qu'on apporte ces références. Par exemple, dans mes livres, j'apporte des références de femmes du XVIIe siècle.
Porque é um modo da gente combater o que a gente chama de epistemicídio.
Parce que c'est une façon de combattre ce qu'on appelle l'épistémicide.
Epistemicídio foi um conceito pensado pelo intelectual português Boaventura Souza Santos.
Donc l'épistémicide, c'est un concept qui a été pensé par l'intellectuel portugais Boaventura Souza Lins.
Santos. A toma tá boa.
E as feministas negras brasileiras utilizam muito esse conceito.
Et les féministes noires brésiliennes utilisent beaucoup ce concept.
Que é pensar como as produções negras ou as produções indígenas estão sendo assassinadas historicamente e sistematicamente.
Et en fait, qui pensent à quel point les productions, le savoir, les connaissances noires ou autochtones ont été assassinées systématiquement.
Tem um grande intelectual negro brasileiro chamado Abdias do Nascimento.
Donc il y a un grand intellectuel brésilien qui s'appelle Abdias do Nascimento.
Que escreveu um livro chamado Genocídio do Negro Brasileiro.
Et il a écrit un livre qui s'appelle Le génocide du noir brésilien.
Em que ele diz que genocídio é todo aniquilamento moral, intelectual, político de um povo.
Et en fait, il dit que le génocide c'est toute annihilation d'un peuple, que ce soit culturellement, moralement,
Quando você mata uma cultura, você mata um povo.
Parce que quand vous tuez une culture, vous tuez un peuple.
Então é importante a gente ampliar o que a gente entende por genocídio.
Donc c'est important en fait qu'on amplifie ce concept de génocide.
Porque o epistemicídio ele causa várias mortes simbólicas.
Parce que les épistémicides, ils causent aussi des morts symboliques.
E mais, ele é parte da própria construção do assassinato físico desses grupos.
Et il part aussi de la propre construction de l'assassinat physique de ces groupes.
Então, exemplo, a construção do homem negro como violento ou agressivo.
Par exemple, la construction de l'homme noir comme un être violent ou agressif
justifica inclusive o assassinato do seu corpo físico.
Justifie d'ailleurs l'assassinat de son corps physique.
Porque quando esse homem é assassinado, o que que as pessoas dizem? Ah, ele devia ser violento, ele devia ser um bandido.
Parce que quand il est assassiné, qu'est-ce que les gens disent? Ah, bah il devait être violent, ça devait être un criminel.
Então, discutir o epistemicídio não é meramente falar de construções teóricas.
Donc parler d'épistémicide, c'est pas seulement parler de construction théorique.
Porque essas construções estão ligadas inerentemente ao modo da nossa existência, como a gente existe.
Parce que ces constructions, elles sont liées de façon inhérente à notre mode d'existence.
Antes de deixar a última pergunta, eu queria falar do comitê Marielle Franco, que é o comitê que eu trabalho, e convidar as pessoas para a parada gay, que a Mônica vai ser a madrinha.
Ah, claro, Luz, por favor.
Né, porque a gente tem que fazer a resistência, enfim. Avant de laisser à la dernière question et la dédicace, je voudrais vous inviter à connaître les comités de solidarité et résistance brésilienne qui s'appelle Marielle Franco. Ceux qui ne connaissent pas, Marielle Franco est une conseillère municipale douée ça fait un an, et elle nous représente vraiment la résistance de la femme lesbienne noire au Brésil. Et ces comités-là, ils travaillent surtout à donner la visibilité et traduction des textes de portugais vers les français sur Marielle Franco et ses luttes, et aussi soutenir des projets, notamment deux projets au Brésil, un avec le mouvement des paysans sans terre à Recife, la construction d'Armazém do Campo, qui c'est l'université populaire, et l'épicerie bio de MST. Et l'autre projet, c'est avec les peuples originaires Pataxó, la construction d'une maison de santé et guérison. Parce que là, l'objectif, c'est que ça soit une maison dite occidentale et aussi rituelle selon les traditions Pataxó. Du coup, on travaille avec ces deux projets pour soutenir la résistance, effectivement, au Brésil, mais aussi la visibilité à travers de la communication. Et notamment, là, je voulais vraiment vous inviter à participer le 6 juin, la soirée Marielle Franco, et qui comptera avec la présence de Mônica Benício, sa compagne. Et elle sera aussi la marraine de la Gay Pride de Toulouse. Donc, nous sommes très contents d'accueillir Mônica et la résistance. Ça donne un peu l'espoir, et il faut avoir l'espoir parce que la lutte est aussi une lutte contre la nécropolitique, la politique de la mort, et c'est aussi à voir avec la santé mentale. Et c'est tout à fait une résistance quotidienne. À la dernière question, Victor.
On peut prendre deux. Ce qu'on peut faire parfois, c'est prendre deux questions et comme ça.
Ensuite, ajoute pas. Je regarde deux questions et répondre.
D'accord. Eu vou tentar ser rapidinho. Tipo, sou Victor lá de Salvador. Prazer estar aqui, Jamila. E eu queria fazer uma pergunta, na realidade, tentando relacionar a educação, porque ontem no Brasil a gente teve manifestações gigantes por conta dos cortes dos 30% na educação que o nosso excrementíssimo presidente vai fazer. E eu queria perguntar o que você acha que vai afetar a comunidade negra, já que a gente vem de um processo de democratização da universidade, através de políticas públicas como a cota racial e social e isso, basicamente.
Vous pouvez traduire?
Ah, pour favor.
Ah, mais j'ai pas pris de notes. Victor. En fait, donc, il voulait... parce que c'est vrai qu'hier, il y a eu une manifestation monstre, parce qu'il y a eu des... Le président Bolsonaro a fait des coupes budgétaires de 30%, surtout pour les sciences humaines, qui ne servent à rien. Et donc, votre question à Jamila?
C'était exactement comment Djamila pense ces manifestations-là et les politiques de rupture, de coupure,
coupe
des financements liés parce que les dernières politiques publiques au Brésil, c'était justement pour faire la réparation historique, de donner des places aux descendants des Noirs et aussi liés à la classe sociale. Je pense que j'ai traduit.
Okay. Une autre question,
Virginie?
Moi, j'avais une question.
Ah bon,
mais c'est une question très petite.
Alors on en fait trois. Marceline et puis Madame alors.
Oui.
C'est quoi, Marceline?
Oui, c'est toi.
Ah bon.
Non.
Non, j'y vais comme ça alors. Muito obrigada por sua presença. Como Raíssa diz, é muito importante para a resistência do Brasil que pessoas do Brasil venham na França. Acho muito importante e fico muito feliz em ver que a receptividade é sempre muito grande. A França está muito observadora e temos trabalhado nisso em manter essa coisa presente, a Marielle presente em Toulouse, uma coisa que a gente trabalha bastante. E a pergunta especificamente seria, partindo de uma observação pessoal, eu sinto que essa eleição dessa pessoa, que é uma encarnação assim, de tudo que a gente não quer, conseguiu colocar o dedo em pontos muito importantes que tinham ficado meio que no flu e agora estão bem focados no Brasil. Eu estou vendo um movimento de reação, pelo menos de longe, que está me entusiasmando muito de ver uma reação contra essas coisas estabelecidas como racismo, tudo isso. Eu queria saber como você está observando isso, dessa reação, dessa resposta popular a essas políticas absurdas e palavras absurdas e atos absurdos desse governo. Donc c'était savoir, je faisais le constat que la France est très attentive à ce qui se passe au Brésil, que c'est très important que les Brésiliens et les Brésiliennes viennent en France partager leur expérience. On est tous très demandeurs de ça. Et savoir quelle est l'opinion de Jamila par rapport à la réaction qui s'est établie au Brésil à l'élection de cette personne qui symbolise tout ce qu'on veut le moins, quoi, le racisme, le sexisme, la violence et tout ça, et le magnifique mouvement que j'ai l'impression de voir grandir au Brésil en réponse, parce qu'il a mis malgré tout le doigt sur les points qui doivent être traités, des choses qui étaient mises dans un flou, dans un vague, et qui ont été mises en exergue par sa présence, voilà, qui catalyse toutes ces choses mauvaises. Je voulais savoir qu'est-ce qu'elle en pense.
A minha pergunta é sobre o livro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, porque em uma das crônicas tu fala que o racismo reverso não existe. E esse conceito de racismo reverso, aqui na França existe uma dificuldade muito grande em se falar em racismo, mas racismo reverso, ok. Todo mundo acredita que existe. E eu queria que tu explicasse para as pessoas por que o racismo reverso não existe. La question que j'ai posée, c'est que Djamila, si elle puisse expliquer, qu'est-ce que ça veut dire? Les racismes anti-blancs, parce qu'ici en France, on a beaucoup de difficultés d'avoir des discussions sur les racismes, mais par contre, les concepts des racismes anti-blancs, il est partout, les médias, vous pouvez partout. Les racismes anti-blancs, par contre, il existe, il est là.
Parce qu'il y a une chronique qui parle effectivement, qui s'appelle d'ailleurs « Le racisme anti-blanc n'existe pas » ou quelque chose comme ça.
O corte, né, de verba na educação afeta diretamente esse projeto de democratização das universidades.
Donc effectivement, ces coupes budgétaires dans le secteur de l'éducation, elles affectent directement le projet de démocratisation de l'éducation.
Eu faço parte, eu sou dessa geração que teve acesso a políticas públicas na área da educação.
Donc moi-même, je fais partie de cette génération qui a eu accès aux politiques publiques.
Eu estudei numa universidade que foi criada em 2007 no governo Lula.
Donc j'ai étudié dans une université qui a été créée en 2007 par le gouvernement Lula.
Eu sou da turma de 2008, entrei em 2008 e saí em 2015 com mestrado em filosofia política.
Donc je suis entrée en 2008 et je suis sortie en 2015 avec une maîtrise de philosophie politique.
E inegavelmente, durante os governos Lula e Dilma, existiram avanços importantes para que a população negra tivesse acesso ao ensino superior.
Et donc c'est indéniable que entre cette période des gouvernements Lula et Dilma, il y a eu des progrès indéniables pour que la population noire ait accès à ces espaces.
Claro que ainda em números absolutos somos poucos, mas inegavelmente nunca se teve tantas pessoas negras no ensino superior hoje no Brasil.
Donc évidemment en chiffre absolu on est encore peu nombreux, mais en tout cas il n'y a jamais eu autant de noirs dans l'enseignement supérieur au Brésil.
Importante também dizer que no Rio de Janeiro, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro foi a primeira a adotar cotas.
Donc c'est important de souligner que à Rio de Janeiro, l'université de l'État de Rio a été la première à mettre en place des quotas.
Vem sofrendo verdadeiros ataques de sucateamento já há alguns anos.
Et elle souffre des attaques qui durent depuis plusieurs années.
Justamente porque se tornou uma universidade negra.
Justement parce que c'est devenu une université noire.
E o deputado estadual do Rio de Janeiro, que quebrou a placa em homenagem a Marielle.
Et donc le député de Rio de Janeiro, qui d'ailleurs a cassé la plaque en hommage à Marielle.
propôs um projeto de lei para extinguir as cotas raciais na Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
Et donc il a fait un projet de loi pour justement éteindre ces quotas raciaux à l'Université de Rio.
Então, de fato, por mais que eu tenha críticas aos governos do PT,
donc en effet, même si je fais des critiques au gouvernement du PT,
é inegável que nesses governos existiram políticas importantes, apesar de insuficientes, mas políticas muito importantes.
Il est indéniable qu'il y a eu des politiques importantes, même si elles ont été insuffisantes, mais elles ont été importantes.
Comme la loi des quotas, né, de 2012.
Comme la loi des quotas de 2012.
Para todas as universidades federais no Brasil.
Pour toutes les universités fédérales du Brésil.
E que agora a gente vê esses poucos avanços retrocedendo.
Et donc aujourd'hui on voit ces peu d'avancées qui font marche arrière.
Eu só consegui fazer mestrado porque eu tinha uma bolsa.
Moi j'ai réussi à faire ma maîtrise uniquement parce que j'ai eu une bourse.
E é bom falar que foi cortada também as bolsas CAPES, né, no Brasil.
Et donc il est important aussi de dire que ces bourses ont été coupées aujourd'hui au Brésil.
Les nouvelles.
Les nouvelles.
As novas.
As novas.
Por
Sim,
enquanto.
Cortadas.
Eu tô aqui.
Muitas pessoas, eu conheço pessoas que tinham já conseguido, tinham pedido demissão e, enfim.
Je connais des gens qui avaient demandé une bourse et puis qui n'ont pas eu, qui ont demandé leur démission.
Então, de fato, existe um projeto de ataque à educação e, sobretudo, vai afetar diretamente aqueles que têm mais dificuldades de acesso à educação no Brasil.
Donc, évidemment, c'est un projet qui attaque directement l'éducation et qui va affecter plus particulièrement ceux qui ont déjà du mal à accéder à l'éducation.
Sobre a segunda pergunta.
Alors, sur la deuxième question.
Eu acho que é importante também a gente romper com uma ideia de um povo brasileiro passivo.
Donc, je crois que c'est très important de rompre avec l'idée d'un peuple brésilien passif.
Porque muitas das resistências ainda que a gente teve no Brasil foram invisibilizadas.
Parce que, en fait, beaucoup des résistances que on a mises en pratique au Brésil, en fait, elles ont été rendues invisibles.
Então, imagina o Quilombo de Palmares.
Par exemple, le Quilombo de Palmares.
Que teve mais de 100 anos de existência.
Qui a existé pendant plus de 100 ans.
Num período em que, da escravidão.
Donc, c'était pendant la période de l'esclavage.
E que resistiu durante mais de 100 anos à coroa portuguesa.
Et il a résisté pendant plus de 100 ans face à la couronne portugaise.
Assim como existiram várias revoltas indígenas.
Il a aussi existé de nombreuses révoltes autochtones.
Mas que a própria população brasileira não tem conhecimento.
Mais même les Brésiliens, ils en ont même pas connaissance.
Porque citando o filósofo Walter Benjamin.
Parce que, pour citer le philosophe Walter Benjamin,
a história é contada pelo ponto de vista dos vencedores.
L'histoire, elle est toujours racontée du point de vue des vainqueurs.
Existem diversos movimentos no norte do Brasil.
Donc, il existe de nombreux mouvements dans le nord du Brésil.
E que diversos líderes indígenas e quilombolas sendo assassinados.
Et dont les leaders des quilombos ou les leaders autochtones ont été assassinés.
Porque estão historicamente lutando pelo direito à terra.
Et parce que ce sont eux qui luttent historiquement pour le droit à la terre.
Assim como existem resistências das pessoas do campo, mulheres camponesas.
De même, il existe aussi des résistances à la campagne avec des femmes paysannes.
Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas não vão tanto às ruas porque elas têm medo.
Et donc ce qui se passe c'est que en fait très souvent les personnes n'entendent pas trop ces voix parce qu'elles ont peur.
Uma polícia extremamente violenta no Brasil assassina.
On a une police très violente, assassine.
Mas isso não quer dizer que o povo brasileiro não vem historiquement résistindo et criando estratégias de resistência.
Mais cela, ça ne veut pas dire que le peuple brésilien n'a pas historiquement résisté et ne crée pas des stratégies de résistance.
Mas dito isso, acho extremamente importante que as pessoas estejam saindo às ruas contra o governo que está posto.
Mais je trouve que c'est très important que les gens sortent dans les rues pour protester contre le gouvernement en place.
Como foi dito já, né, dois dias atrás, no Brasil inteiro, milhares de pessoas foram às ruas.
Donc, comme on l'a dit, il y a deux jours, des milliers de personnes sont descendues dans les rues.
Espero eu, né, que no Brasil as pessoas comecem a acordar para as coisas que estão acontecendo.
Donc, j'espère que au Brésil, les gens vont aussi se réveiller face à ce qui est en train de se passer.
Que temos discurso hoje de criminalização do Partido dos Trabalhadores.
Parce qu'on a aujourd'hui un discours de criminalisation du Parti des Travailleurs.
É, isso se dá também porque é importante frisar que nós não temos uma mídia democrática no Brasil.
Et en fait, ça aussi, ça se passe parce que je crois que c'est important de rehausser que au Brésil, on n'a pas de médias démocratiques.
Então, muitas vezes a gente não tem um discurso contrário nas grandes mídias.
Donc, en fait, dans les grands médias, on n'a pas de discours contraire.
Foi um grande erro, inclusive, do Partido dos Trabalhadores não ter comprado essa pauta da democratização das mídias enquanto esteve no poder.
E c'est d'ailleurs une grande erreur du Parti des Travailleurs quand il était au pouvoir de ne pas avoir procédé à la démocratisation des médias.
Então, isso quer dizer que as pessoas vão assistir geralmente a Globo, que é o maior canal no Brasil?
Donc parce qu'en fait les Brésiliens en général, eh ben ils regardent la télévision Globo, qui est la plus grande chaîne de télé du Brésil.
Ou a Record, que é uma também das maiores, que é presidida por um bispo da Igreja Universal.
Ou alors ils regardent la chaîne Record, qui est une énorme chaîne de télévision dont le chef est un pasteur de l'Église évangélique universelle.
No Brasil, 50% da população não tem acesso à internet.
Et au Brésil, 50% de la population n'a pas accès à internet.
Mas a grande maioria tem uma televisão.
Mais en grande majorité, ils ont une télévision.
Ils s'informent através da televisão.
Et ils s'informent à travers cette télévision.
Então, de fato, esse discurso ele acabou sendo um discurso que as pessoas acreditaram.
Et donc dans les faits, ce discours qui est dit à la télévision, les gens finissent par le croire.
Mas penso que também é importante as esquerdas fazerem uma crítica importante sobre isso.
Et je crois que c'est important que la gauche même elle fasse une critique sur cela.
E perceba que muitos durante esses anos em que esteve no poder também se esqueceu um pouco das bases.
Et que en fait ils prennent conscience que pendant toutes les années où ils ont été au pouvoir, ils ont aussi oublié la base.
E o quanto que é importante também as esquerdas refletirem sobre seus próprios como são formadas internamente as esquerdas institucionais.
Et je crois que c'est important aussi que les gauches, en tout cas les gauches institutionnelles, elles réfléchissent à la façon dont elles sont formées.
Porque ainda são partidos controlados e majoritariamente dominados por homens brancos de classe alta.
Parce que ce sont encore des partis qui sont contrôlés majoritairement par des hommes blancs et de classe moyenne ou classe supérieure.
Então, acho que é um momento, de fato, de, claro, importante todas essas manifestações que estão acontecendo.
Donc, évidemment, c'est un moment important à cause de toutes ces manifestations qui se passent.
Mas que as esquerdas entendam a importância de não um projeto de poder, mas um projeto de sociedade.
Mais je crois que c'est important que les gauches, elles pensent à autre chose qu'un projet de pouvoir et à un projet de société.
Sobre racismo reverso. Essa é uma questão polêmica.
Sur le racisme anti-blanc, c'est une question polémique.
Eu escrevi um artigo em 2014.
Donc j'ai écrit un article en 2014
chamado Acreditar em racismo reverso é como acreditar em unicórnio.
Et qui s'appelle Croire au racisme anti-blanc, c'est comme croire aux licornes.
Que, claro, é um título absurdo justamente para chamar atenção.
Donc c'était un titre absurde justement pour attirer l'attention.
E escrevi por conta de um humorista muito ridículo no Brasil chamado Danilo Gentili.
E donc je l'ai écrit à cause d'un humoriste brésilien ridicule au Brésil qui s'appelle Danilo Gentili,
que disse que estava sofreu racismo na escola porque chamavam ele de
palmito.
É palmito.
Et en fait donc il disait que quand il était petit, il avait souffert du racisme à l'école parce qu'on l'appelait cœur de palmier.
Isso significa dizer que as pessoas confundem conceitos muito importantes.
E pour moi ça veut dire que les gens confondent des concepts très importants.
Preconceito é diferente de racismo, que é diferente de discriminação.
Le préjugé c'est différent du racisme qui est différent des discriminations.
Então, preconceito é um juízo antecipado que não passa pelo crivo da razão.
Donc le préjugé c'est un jugement anticipé qui passe pas par le prisme de la raison.
Então sim, todos os grupos podem ter preconceitos uns com os outros.
Donc oui, tous les groupes peuvent avoir des préjugés les uns vis-à-vis des autres.
E pode xingar, claro que não achar que talvez não tenha sido legal ter sido xingado de palmito.
Donc évidemment, ça a pas dû être très agréable de se faire appeler cœur de palmier.
Mas isso não fez com que o grupo que ele pertence deixasse de ser o grupo dominante.
Mais cela n'a pas engendré le fait que le groupe à laquelle il auquel il appartient a arrêté d'être le groupe dominant.
Que racismo é um sistema de poder.
Parce que le racisme c'est un système de pouvoir.
E ao mesmo tempo um sistema de opressão.
Et en même temps un système d'oppression.
Então ele pode ter sido xingado de palmito.
Donc OK, on l'a appelé cœur de palmier.
Mas os homens brancos no Brasil não deixaram de ser o grupo que é o grupo que está no topo da pirâmide social.
Mais malgré tout, les hommes blancs au Brésil n'ont pas arrêté d'être le groupe qui est tout en haut de la pyramide sociale.
Uma pessoa branca, ela não é assassinada porque ela é branca.
Une personne blanche, elle n'est pas assassinée parce qu'elle est blanche.
É, então é essa dificuldade que as pessoas têm de entender, às vezes quando pessoas negras no máximo pode fazer uma careta e dizer não gosto de brancos.
Donc au maximum des noirs peuvent faire une grimace en disant oh, j'aime pas les blancs.
Isso não tem um efeito direto na vida daquela pessoa.
Mais ça, ça a pas un effet direct sur la vie de cette personne.
Porque nós não temos poder estrutural e nem institucional para oprimir.
Parce que nous n'avons pas le pouvoir structurel et ni même le pouvoir institutionnel pour opprimer.
Pode ser chato, a pessoa pode ir para casa, chorar, ficar triste.
Donc évidemment, ça peut être désagréable, la personne peut rentrer chez elle en pleurant parce qu'on l'a insultée.
Mas ela não vai deixar de ter os direitos dela como uma pessoa branca numa sociedade racista.
Mais en attendant, elle gardera toujours ses droits de personne blanche dans une société raciste.
Então, agora, a pessoa negra não, quando ela é, por exemplo, alguém a xinga na rua.
Alors que, en revanche, la personne noire, quand on l'insulte dans la rue,
esse xingamento já faz parte de uma estrutura que desumaniza pessoas negras.
Cette insulte, elle fait partie d'une structure qui déshumanise la personne.
E essa pessoa, sim, ela pode ser parada pela polícia porque é negra.
Et donc cette personne, elle peut effectivement se faire arrêter par la police parce qu'elle est noire.
Ter a sua subjetividade, a sua construção como sujeito afetada por um sistema que privilegia a branquitude.
Elle peut avoir sa subjectivité, sa construction comme sujet affecté par cette oppression construite par la blancité.
Além de sofrer individualmente essas agressões que fazem, que constituem esse sistema.
En plus de souffrir individuellement de ces agressions qui font partie du système.
Então, de fato, o racismo só poderia existir racismo reverso.
Et donc il ne pourrait exister un racisme anti-blanc
se tivesse existido navios branqueiros.
Que s'il y avait, si des navires blanchisés avaient existé, plutôt que des navires négriers.
Se os países africanos tivessem invadido a Europa, saqueado, escravizado.
Si les pays africains avaient envahi l'Europe, avaient transformé les personnes en esclaves.
Estuprado as mulheres.
S'ils avaient violé les femmes.
E criado um sistema que só beneficia a si mesmos.
Et s'ils avaient créé un système qui ne leur profite qu'à eux-mêmes.
Então, colocar preconceito como se fosse a mesma coisa que racismo é o que a gente chama de falsa simetria.
E donc en fait mettre le préjugé sur le même niveau que le racisme, c'est nous ce qu'on appelle une fausse symétrie.
Então a entender quando a gente tem honestidade para entender, né, como a sociedade foi constituída, não tem como a gente acreditar que pessoas negras têm poder para oprimir pessoas brancas.
Et donc en fait on ne peut pas croire que les personnes noires ont le pouvoir pour opprimer des personnes blanches.
Sim, existe preconceito, precisamos conversar sobre isso.
Donc oui, effectivement, il existe des préjugés et il faut qu'on en discute.
Mas racismo, né, só vai atingir grupos negros, indígenas, minorias raciais.
Mais le racisme, il ne va atteindre que les noirs, les autochtones, des minorités raciales.
Porque todos somos iguais. É quando você diz assim, mas eu sou diferente. Eu não sou branca. Aí, pronto. Quer deixar que a Constituição da República Francesa.
C'était Djamila Ribeiro pour son livre Le féminisme noir, chronique du Brésil, à la librairie Terra Nova.